France Musique. Musicopolis. Février 1924, New York. Le 12 février, jour de naissance d'Abraham Lincoln, est jour férié à New York, comme dans quelques autres endroits des États-Unis d'Amérique. C'est le jour qu'a retenu le chef d'orchestre Paul Whiteman pour son concert de 1924 au Aeolian Hall, concert intitulé « Une expérience de musique moderne ». Paul Whiteman est persuadé que le jazz est en train d'initier un nouveau mouvement dans le monde de la musique. Il veut que cette musique soit reconnue aussi bien par le public que par les critiques. Avec ce concert, il veut montrer à tous les sceptiques que la musique populaire a beaucoup avancé depuis les débuts discordants du jazz jusqu'aux formes mélodieuses d'aujourd'hui. Il a conçu la séance avant tout comme un concert pédagogique. C'est pourquoi il commence par le Livery Stable Blues. Le 12 février 1924, Paul Whiteman voudrait bien montrer au public que le jazz a progressé depuis le Livery Stable Blues, que cette musique discordante est dépassée à présent. C'est un peu loupé, le public trouve surtout que c'est bien entraînant et joyeux. Peu importe, après tout, le principal c'est que les gens soient contents. Suivent dans le concert une série de chansons de comédie musicale arrangées pour son orchestre, de pot-pourri de chansons connues, de pièces expérimentales pour le piano accompagnées par l'orchestre et d'arrangements semi-symphoniques de mélodies d'Irving Berlin. Dans son concert, Paul Whiteman n'oublie pas de faire entendre aussi des pièces très récentes. Il a programmé une œuvre de Victor Herbert, compositeur classique qui s'intéresse beaucoup au nouveau langage d'inspiration populaire. Une suite de 4 sérénades écrites spécialement pour l'orchestre de Whiteman. Chaque sérénade représentant un pays différent, l'Espagne, la Chine, l'Orient et Cuba. Le concert de Paul Whiteman et son orchestre dure et dure. Il semble que le public, qui est venu nombreux sur la promesse du titre « Une expérience de musique moderne », commence à s'impatienter un brin. Lorsqu'un grand jeune homme, dégingandé, s'avance un peu timidement sur la scène pour s'installer au piano. Sur un signe du chef, la musique commence. Depuis que le clarinettiste Ross Gorman a commencé son trille et son glissando et qu'il a donné l'impression qu'il éclatait de rire dans son instrument, les dos se sont redressés. Soudain, tout le monde est réveillé et très intéressé. En fait, Paul Whiteman avait beaucoup communiqué sur cette nouvelle œuvre. Il avait notamment, au mois de janvier, donné un article au New York Tribune dans lequel il signalait qu'Irving Berlin écrivait un poème symphonique syncopé, que Victor Herbert planchait sur une suite américaine et que George Gershwin travaillait à un concerto jazz. C'est lui, George Gershwin, ce beau jeune homme de 25 ans, un peu dégingandé, qui est assis à présent au piano. Pianiste et compositeur qui joue sa nouvelle œuvre ce 12 février 1924 au Aeolian Hall de New York n'a pas eu le temps de tout écrire sur la partition. En particulier, il s'est dispensé de noter la partie de piano lorsqu'il est tout seul. Il a juste mentionné à l'intention du chef « attendre le signe de tête ». Ce que nous entendons ici est le premier enregistrement jamais réalisé de la Rhapsody in Blue de Gershwin, le 10 juin 1924, 4 mois tout juste après la création. Le problème est alors de faire tenir toute la musique sur 2 faces de 78 tours, environ 8 minutes pour une œuvre qui dure plutôt entre 13 et 18 minutes. Ce qui implique d'une part de faire des coupures et d'autre part de jouer un peu plus vite qu'en concert. Ici, nous sommes juste à la fin de la première phase du 78 tours. C'est pourquoi il y a un petit arrêt dans la musique. Justement, arrêtons-nous, nous aussi, et remontons un peu dans le temps pour retrouver comment tout a commencé. Paul Whiteman, commanditaire de la Rhapsody in Blue et chef d'orchestre de la création, a commencé sa carrière comme altiste dans divers orchestres symphoniques, avant de diriger des orchestres de danse. Juste après la guerre, pendant laquelle il a dirigé un jazz band de la marine, il fonde son propre orchestre. Il s'intéresse au timbre des instruments et avec Ferdi Groffé, un de ses camarades altistes qu'il a recruté comme pianiste et arrangeur, il débauche d'excellents instrumentistes de formation symphonique qu'il paye très bien et à qui il demande un haut niveau d'exécution. Son orchestre est bientôt l'un des plus réputés de tout le pays. Thank you. Gershwin va souvent écouter l'orchestre de Paul Whiteman, dont tout le monde admire la virtuosité. De son côté, Whiteman connaît bien la musique de Gershwin, dont il a déjà joué des chansons comme ce « Stairway to Paradise » que le jeune homme a écrit pour une revue de Broadway en 1922. À cette époque, la carrière de Gershwin est bien partie et dans deux directions. D'une part, des chansons, notamment pour des revues, et d'autre part, des comédies musicales et même un court opéra intitulé « Blue Monday » donné en 1922 à Broadway. Parmi toutes ses activités, George Gershwin a trouvé le temps de participer à un concert de la mezzo-soprano Eva Gauthier. Dans le but de montrer qu'il n'y a pas de barrière entre les différentes musiques, Eva Gauthier a décidé de donner un récital chant et piano qui balaye l'histoire de la musique depuis Purcell jusqu'à Bartok et Schoenberg, en passant par des chansons du répertoire populaire d'Irving Berlin, de Jérôme Kern et bien sûr de Gershwin. On lui a conseillé de demander aux jeunes compositeurs et pianistes d'accompagner la partie chanson, ce qu'il a accepté avec plaisir. Le concert a lieu en novembre 1923, justement au Aeolian Hall de New York.
I am just a little girl who's looking for a little boy. Who's looking for a girl to love? Tell me, please, where can he be? The loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming of. It'll be goodbye. Tale of woe when he says hello. So I am just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. If it's true that love affairs are all arranged in heaven, my guardian angel's holding out on me. So I'm looking for a boy about 5'6" or 7", and won't be happy till I'm on his knee. I'll be blue until he comes my way. Hope he takes the cue when I am saying, tell me, please, where can he be? The loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming.
Je ne suis pas sûre que la mezzo-soprano Eva Gauthier, accompagnée par Gershwin au Aeolian Hall de New York en novembre 1923, chantait comme Ella Fitzgerald. Le Time déclare seulement dans son numéro du 12 novembre que sa voix était trop belle pour du jazz. Quoi qu'il en soit, ce concert a amené les nouvelles chansons de la musique populaire dans une salle qui recevait jusque-là les grands virtuoses de l'époque comme Rachmaninov, Prokofiev, Busoni ou autres Paderewski. Paul Whiteman saisit la perche et se dit que si Gershwin peut y jouer ce répertoire, alors pourquoi pas lui avec son orchestre ? Mais là encore, il faut montrer qu'il n'y a pas de barrière entre les différents styles de musique, qu'on peut jouer la musique populaire avec des arrangements dignes d'un orchestre classique et qu'on peut peut-être même inventer un nouveau langage qui mêle le rythme syncopé et les harmonies du jazz avec les formes et les instruments du répertoire symphonique. Et tiens, pourquoi pas s'adresser à ce jeune pianiste qui accompagne si bien Eva Gauthier, qui propose de si belles mélodies et qui a visiblement envie d'aller plus loin et d'approfondir son style. Ce que nous entendons ici, avec une orchestration un peu spéciale, est en fait la partition originale de 1924 de la Rhapsody in Blue, enregistrée par Michael Tilson Thomas avec le Columbia Jazz Band en 1976. Le pianiste n'est autre que Gershwin lui-même, qui avait enregistré la partie de piano sur rouleau en 1925 et qu'on peut donc repasser sur un piano mécanique moderne et enregistrer avec les derniers perfectionnements techniques. C'est vraisemblablement dès le début du mois de novembre 1923 que Gershwin songe au concerto jazz dont lui a parlé Paul Whiteman. Il n'a pas beaucoup de temps, il a justement une comédie musicale en route, Sweet Little Devil, qui va être donnée fin janvier 24 à New York. Mais il pense à ce qu'il appelle d'abord American Rhapsody, Rhapsody américaine. « Je n'avais pas de plan défini à l'esprit, écrit Gershwin, pas de structure sur laquelle ma musique se construirait. À cette période, j'ai dû aller à Boston pour la première de Sweet Little Devil. J'avais déjà travaillé un peu sur la Rhapsody. C'était dans le train, avec ses rythmes d'acier, ses cliquetis et ses fracas réguliers, très stimulants pour un compositeur. Et là, soudain, j'ai entendu, j'ai même clairement vu sur le papier, la construction complète de la Rhapsody du début à la fin. Aucun nouveau thème ne m'est venu en tête, mais j'ai travaillé sur le matériel thématique auquel j'avais déjà pensé et j'ai essayé de concevoir la composition comme un tout. Je l'ai entendu comme une sorte de kaléidoscope musical de l'Amérique, de notre grand melting pot, de notre dynamisme national inégalé, de notre blues, de notre folie métropolitaine. En arrivant à Boston, j'avais défini l'essence de la pièce entière. Thank you. très pressé par le temps, Gershwin n'a pas eu le temps d'orchestrer son concerto jazz. Et donc, les dernières semaines avant le fameux concert du 12 février 1924, Ferdy Groffé, l'arrangeur de l'orchestre de Paul Whiteman, est venu chaque jour jusqu'à l'appartement du compositeur pour chercher les dernières pages toutes fraîches écrites de la version pour deux pianos, avec les indications d'instrumentation. Et il a réalisé une orchestration spécialement destinée à l'ensemble de Whiteman. Lorsque l'œuvre est devenue un tube un peu plus tard, interprétée par les grandes formations symphoniques, alors il a étoffé son travail pour le destiner aux grandes salles de concert. Quant au titre définitif de la rhapsodie, c'est le frère de Gershwin, Ira, son parolier préféré, qui va le proposer. Après avoir vu une exposition consacrée à Whistler, avec ses tableaux nommés « Nocturne en noir et or » ou « En bleu et argent » ou « En gris et argent », et puisque cette rhapsodie n'était ni en majeur ni en mineur, mais tournait plutôt autour de la note bleue, la « blue note » des jazzmen, il a eu cette idée, fameuse, de l'appeler « Rhapsody in Blue ». La Rhapsody in Blue de George Gershwin, avec George Gershwin au piano, l'orchestre de Paul Whiteman, dirigé par Paul Whiteman, le premier enregistrement de la Rhapsody du 10 juin 1924. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Éric Boisset pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.